bienvenue à la maison de l'enfant Trémol pour le centre de loisirs Fontaine. On est ravis de vous accueillir tous et toutes. Vous savez pourquoi on est là aujourd'hui?
Oui.
Qu'est-ce qui se passe?
On va faire un truc sur les droits des enfants.
Et est-ce que vous savez pourquoi on fait ça aujourd'hui?
Non.
Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'anniversaire des droits des enfants.
Non, on va faire un goûter.
On fera un goûter après. Avant, on vous a proposé plusieurs ateliers pour échanger sur les droits des enfants, mais aussi le droit à l'égalité. Ok, donc on va passer l'après-midi ensemble. Vous allez être mélangés dans les ateliers avec des enfants que vous ne connaissez pas, mais ça va être l'occasion de vous rencontrer. Et après, on se retrouvera tout à l'heure pour prendre un goûter ensemble et observer une belle exposition dont vous avez participé sur des affiches autour du droit à l'égalité. Alors du coup, je vais faire court. Il y a 5 ateliers qui sont proposés. Il y a l'atelier philo, découverte d'un livre avec Daniel. Atelier coopération avec Cyrielle. Atelier qui est-ce avec... Alors les Jade, mais du coup, elles ne s'appellent pas toutes Jade, en fait, elles ont des vrais prénoms. Mais l'atelier qui est-ce et l'atelier pas à pas. Et le dernier atelier avec Laetitia, c'est l'égalité filles-garçons. Et on se retrouvera à la fin des ateliers ici pour partager un goûter, tous et toutes ensemble. Surtout, qu'est-ce que vous allez faire le 4 décembre?
Oui, on va passer à la radio.
Ils font un podcast. Ils vont passer à la radio News FM pour présenter tout ce qu'ils ont fait là, tout le mois de novembre.
Madame Sandrine.
Pardon,
Madame
Sandrine.
Est-ce que je voudrais te poser une question?
Oui.
Dans quel but faites-vous ce projet d'égalité des droits de l'enfant?
En fait, moi, mon but premier, c'est que les enfants connaissent leurs droits. Parce que quand on les connaît, on peut se battre pour les défendre. Et donc du coup, je travaille à parler et à faire connaître aux enfants leurs droits. Et après, nous, des fois, je me pose des questions. Et du coup, là, si on a abordé la question de l'égalité, c'était aussi pour se dire, c'est un des droits, des enfants, d'accord, le droit à l'égalité. Mais en vrai, qu'est-ce qu'ils en pensent, les enfants? Et c'était ça, moi, pour moi, ce qui était intéressant.
Merci Sandrine. Qu'est-ce que c'est l'égalité pour vous?
Pour moi, l'égalité, c'est... on est un peu tous pareils. On peut pas avoir la même couleur de peau ni la même couleur de cheveux, mais on est quand même tous pareils.
Pour moi, l'égalité, c'est qu'on peut tous être différents. On peut, par exemple, être un garçon, être une fille, mais on a tous les mêmes droits.
En fait, les adultes, s'ils veulent décider, ils ont les droits, mais s'ils veulent taper les gens, ils ont les droits.
Qu'est-ce que tu penses de ça?
C'est que ça me fait de la peine.
Je voudrais être avocat pour défendre les gens. Des fois, c'est triste qu'on voit des gens tout seuls. Enfin, non, pas des seuls, mais des gens qui se séparent, qui sont méchants entre eux et tout. Du coup, je vais être avocat pour ça.
Est-ce qu'on est égaux quand on n'a pas la même couleur de peau?
Même si on n'a pas la même peau, on est fait avec des os comme tout le monde. Et ça ne veut pas dire que t'es noir ou t'es beige. Ça ne veut pas dire que... dis pas mon ami par exemple.
En fait, un jour, il y avait une fille, elle a dit que j'aime pas les noirs.
Oui, mais nous, on va pas s'énerver pour ça, on va rester calme. Voilà.
C'est beaucoup mieux d'être nous-mêmes que faire comme les autres. On n'est pas obligé, c'est pas notre faute si on est noir, blanc, jaune ou rouge. C'est pas notre faute, c'est la vie. Et de toute façon, on n'a pas besoin de se faire des disputes entre nous. Le but, c'est que tout le monde vit heureux et normalement. Voilà.
Comment vous appelez?
Nelly.
Et quel est votre métier?
Mon métier, c'était infirmière. Et là, je suis bénévole et je suis présidente des Francas de l'Isère. Donc, toutes les animations qui ont été présentées aujourd'hui, Sandrine, etc. Elles font partie de l'association. C'est une association d'éducation populaire et on est complémentaire à l'école. Donc on vient aider les instituteurs pour expliquer les droits de l'enfant, l'égalité filles-garçons, le harcèlement, la violence à l'école, toutes ces choses-là. On a des outils pour travailler avec vous et on travaille avec les enfants.
Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous protégez les enfants.
Ah ben oui, oui, oui. Nous on les protège, bien sûr qu'on les protège en règle générale, mais surtout on travaille pour que les lois soient appliquées, parce que c'est pas suffisant de faire une loi, mais il faut après qu'on la respecte, cette loi. Alors en France, encore assez bien respecté, par exemple le travail des enfants, en France il se fait pas, mais dans des pays étrangers, etc., qui ont signé la convention, il y a toujours le travail des enfants. Vous entendez un peu les informations, tu vois bien qu'il y a encore des pays en guerre où les enfants souffrent, ils ne vont pas à l'école, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ont perdu leur famille. Enfin, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne vont pas dans le monde.
Et aussi, une autre question. En fait, quand vous étiez petit, est-ce que quelqu'un vous a déjà frappé, vous a fait de la violence?
Il y avait plus de violence que maintenant, je pense. Il y en avait, mais on n'en parlait pas, on ne le disait pas. Il y avait quand même de la violence à l'école, dans les familles, avec des papas qui buvaient, etc. Mais on n'en parlait pas et on nous donnait pas la parole comme maintenant on vous donne la parole. Et c'est justement pour ça qu'on vous donne la parole, pour que ce soit dit et que ce soit réglé, ces problèmes.
C'est facile pour vous, c'est facile de faire.
C'est pas facile. C'est pas facile d'être président d'une association parce qu'il faut toujours aller chercher de l'argent. On a plein de projets, on a plein d'envies, on voit qu'il y a plein de choses à faire. Mais on est tout le temps en train de s'inquiéter parce qu'on ne pourra peut-être pas payer le personnel qu'on a, on ne pourra peut-être pas rester dans les locaux. On est toujours inquiet quand on est président.
Merci.
Alors nous sommes regroupés aujourd'hui pour le jour de l'anniversaire. C'est l'anniversaire des droits de l'enfant. Alors je remercie les animateurs, la directrice, la présidente de la maison de l'enfance. Je remercie aussi toutes les structures qui participent autour de cette journée. Donc les partenaires de cette semaine, eh bien, il y a Gérard Brion, le défenseur des droits des enfants. Les Jades, ils sont où les Jades? Je les remercie particulièrement parce que c'est toujours une très très belle expérience pour vous. L'OCCE et News FN. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très important dans le cadre de l'Université populaire de l'éducation et de l'anniversaire de la CIDE, les droits de l'enfant. Est-ce que vous savez que chaque enfant dans le monde a des droits tout comme vous? Et ces droits sont protégés par une règle très spéciale qu'on appelle la Convention international des droits de l'enfant. C'est un accord signé presque par tous les pays du monde. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette convention? C'est pour dire que chaque enfant mérite d'être respecté, aimé et traité de manière juste, peu importe où il vit, d'où il vient ou la couleur de sa peau. Tous les enfants doivent être heureux. Vous avez le droit d'aller à l'école.
Oui.
D'apprendre.
Oui.
De jouer.
Oui.
Et de rêver.
Oui.
Et vous avez envie de rêver de ce que vous allez devenir quand vous serez grand.
Oui.
Vous avez le droit d'être protégé.
Oui.
Contre les violences, contre la négligence et tout ce qui pourrait vous faire du mal. Qui que vous soyez, où que vous viviez, vous avez tous et toutes les mêmes droits. Le droit à la vie, à l'identité. Vous avez tous un nom, un prénom. Personne ne peut vous faire du mal.
Oui, oui.
Et vous devez vous sentir en sécurité.
Oui.
Vous avez le droit d'aller à l'école.
Oui.
D'apprendre à lire et à découvrir le monde.
Oui.
L'école doit être un endroit où vous sentez bien et où vous pouvez poser des questions et comprendre. Vous avez le droit au jeu, bien sûr. Vous avez le droit de jouer, de vous amuser, d'être créatif. Le jeu est très important parce qu'il vous aide à grandir. Le jeu vous permet d'avoir des amis. Un dernier droit, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, de poser des questions. Vous avez le droit d'exprimer vos idées parce que vous êtes des enfants et que vous avez le droit de vous exprimer et de défendre vos droits. C'est à vous que ça appartient.
Nous, les adultes, on vous accompagne, mais c'est vous qui devez faire changer le monde pour que tous les enfants aient les mêmes droits. Alors, on compte sur vous, les enfants. Merci de m'avoir écouté. Mais maintenant, les droits de l'enfant, ça vous concerne et c'est à vous de continuer à les faire valoir. Vous êtes d'accord pour ça ?
Oui !
Les enfants de la Maison de l'Enfance Prémol ont également eu l'opportunité de rencontrer Éric Delemar, défenseur des enfants, l'occasion d'échanger avec lui et de lui poser quelques questions.
Pourquoi avez-vous voulu devenir défenseur des enfants ?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, j'ai toujours travaillé auprès d'enfants. J'ai d'abord été éducateur auprès d'enfants en situation de handicap, auprès d'enfants en danger, donc qu'il fallait protéger, et aussi auprès de jeunes qui avaient des difficultés avec la loi. Et puis après, j'ai travaillé beaucoup en protection de l'enfance, où j'ai été chef de service et directeur. Et c'est comme ça que la défenseur des droits a entendu mon nom. Et la défenseur des droits, elle a donc proposé mon nom au Premier ministre. Et le Premier ministre a pris un décret, c'est-à-dire une décision, et j'ai été nommé défenseur des enfants. Voilà. Mais quand on m'a proposé, c'est avec un grand plaisir et un grand intérêt que j'ai accepté cette mission éminemment importante et qui engage beaucoup de responsabilités.
Depuis combien de temps êtes-vous le défenseur des droits des enfants ?
Alors je suis le défenseur des enfants depuis novembre 2020, donc ça fait 4 ans. Et je le suis pour 6 ans, donc il me reste encore un peu moins de 2 ans puisque ça s'arrêtera en juillet 2026. Le mandat, il est de 6 ans et on dit qu'il est irrévocable et non renouvelable. Ça veut dire qu'on ne peut pas me virer, mais je ne peux pas refaire un deuxième mandat. C'est important parce que ça veut dire que c'est au nom de l'indépendance. Pouvoir dire la vérité sur ce qui se passe dans notre pays, sur les enfants, il faut pouvoir être protégé par la Constitution, donc c'est ce que je suis avec la défenseur des droits. Donc on est totalement indépendant, personne ne peut nous dire ce qu'on a à faire. Par contre, on ne peut pas refaire un deuxième mandat, je ne travaille pas pour ma réélection. C'est pour garantir que je resterai indépendant. Dans un pays comme la France, je n'ai pas de difficultés particulières, mais j'ai des collègues dans le monde qui sont défenseurs des droits et défenseurs des enfants, qui sont menacés parce qu'ils défendent les droits. C'est pour ça qu'il est important que les États garantissent l'indépendance aux défenseurs des droits, aux défenseurs des enfants, pour qu'ils puissent parler en toute liberté et pouvoir dire qu'effectivement, à tel endroit, pour tel enfant, eh bien, on ne respecte pas ses droits.
Comment devient-on défenseur des droits des enfants ?
Alors, je suis le 5e défenseur des enfants, depuis que le défenseur des enfants existe depuis 2000, ça fait 24 ans. On devient défenseur parce qu'on est nommé par le Premier ministre.
En quoi consiste vraiment votre travail ?
C'est une question très très importante. Mon travail, il consiste à défendre le droit des enfants quand les enfants n'ont pas accès à leurs droits par les institutions. Alors je vais prendre des exemples. Un enfant en situation de handicap à qui on refuse l'accès à l'école. Un enfant qui vit en squat, en bidonville, dans un hôtel social, à qui on refuse d'aller à l'école. Un enfant qui subit la pauvreté et à qui on va interdire d'aller dans des activités périscolaires, à la cantine, parce que ses parents n'auraient pas les moyens de payer, etc. Moi, je rappelle les droits fondamentaux. Le droit à la santé, un enfant qui n'a pas accès à la santé. Un enfant qui est hospitalisé et il ne reçoit pas ses cours. C'est son droit à l'éducation, donc je vais intervenir. Des enfants qui sont maltraités, et pourtant on sait qu'ils sont maltraités, et ça ne bouge pas, ils ne sont pas protégés. Mon travail, moi, il est d'intervenir auprès des services publics pour leur rappeler la loi. Donc rappeler à une mairie qu'il y a une obligation de scolarisation. Rappeler à l'école qu'il y a une obligation de scolariser les enfants en situation de handicap. Rappeler à un département qu'il y a une obligation de protéger l'enfant lorsqu'il y a une décision de protection. Rappeler que les jeunes qui viennent seuls sur le territoire français, qui arrivent, les mineurs non accompagnés, doivent être considérés d'abord comme des enfants, des mineurs, avant d'être considérés comme des étrangers. Je rappelle le droit, je rappelle ce que la France a ratifié, ça veut dire signé et s'est engagé à faire. C'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc il y a tout un travail de défense. Donc pour ça, je suis aidé de délégués du défenseur des droits. Il y en a partout, il y en a 600 partout en France. Il y en a à Grenoble, il y a Gérard qui m'accompagne aujourd'hui. Mais il y a aussi à Paris des spécialistes du droit de l'enfant. Juges des enfants, anciens avocats, des juristes spécialisés dans tous les domaines de l'enfance, l'éducation, la santé, et qui eux vont instruire les dossiers, c'est-à-dire qu'ils vont enquêter quand on a connaissance que le droit des enfants n'est pas respecté. Et puis de faire connaître les droits, ce que je fais aujourd'hui. Ça, ce qu'on appelle la promotion. Et avec la défenseur des droits, on remet au président de la République et au ministre tous les ans un rapport sur les droits de l'enfant.
Saviez-vous qu'il y a encore beaucoup d'inagilité et d'injustice dans le monde ?
Il y a beaucoup d'injustices et les enfants sont les premières victimes des injustices dans le monde parce que déjà, tu sais, quand la France a ratifié, c'est-à-dire qu'elle a signé, qu'elle s'est engagée à appliquer la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989 et la France l'a signée en 90, le président de la République de l'époque, il s'appelait François Mitterrand, il a dit « parce que les enfants n'ont pas le droit de vote, parce qu'ils n'ont pas d'influence politique, parce qu'ils n'ont pas d'influence économique, mais que leur développement est crucial pour les enfants qui sont aujourd'hui, pour l'avenir de l'humanité », le monde s'est doté de la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais il dit, petit être humain ne veut pas dire petit droit. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas de droit. Il dit, au fond, les enfants doivent devenir détenteurs de l'ensemble des droits de l'homme dès leur naissance. Dès leur naissance, on doit les regarder comme des sujets de droit. Et il dit autre chose, la France, elle a, pays des droits de l'homme et de la déclaration des droits de l'homme, elle a un rôle aussi modeste d'exemplarité à travers le monde. Et on sait qu'il y a plein de pays au monde où ce sera encore plus difficile et il faut porter les droits de l'enfant. Et depuis la crise sanitaire, malheureusement, on a une augmentation du nombre d'enfants déscolarisés dans le monde. On a une augmentation de l'exploitation des enfants, du travail des enfants dans le monde. Et on a aussi parfois, et nous on le fait avec la Défenseur des droits, on rappelle l'importance de l'accès des services publics pour aider les enfants. Ça veut dire le service public de la petite enfance, soutenir les parents et les enfants pour un accueil en crèche, pour que les enfants, tous les enfants aient accès à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée, etc., etc., à la santé. Donc il y a effectivement beaucoup d'inégalités à travers le monde. La France est un pays dit riche, hein, c'est un pays riche, mais elle a aussi, elle ne doit pas se reposer sur ses lauriers, elle doit aussi continuer à faire des progrès, surtout encore une fois depuis la crise sanitaire où on a quand même une précarité, une augmentation de la pauvreté et des difficultés, et c'est toujours les enfants qui sont les premières victimes. Cette année, on fête les 100 ans de la Déclaration de Genève. La Déclaration de Genève, c'est la première fois que s'est posée la question au niveau mondial des droits de l'enfant. Parce qu'on sortait de la Première Guerre mondiale et il y avait eu beaucoup de drames. Et à l'époque, les adultes ont dit « l'humanité doit donner ce qu'elle a de meilleur aux enfants. On doit tout consacrer aux enfants. »
Travaillez-vous dans le monde entier, notamment dans les continents comme l'Afrique et l'Asie, où il y a beaucoup d'inégalités?
Ma mission, elle est très précise. Je dois défendre tous les enfants qui passent ou qui vivent en France, qu'ils soient français ou étrangers. Tous les enfants qui sont sur le territoire national, donc ça veut dire bien entendu l'Hexagone, la métropole, mais aussi, on parlait tout à l'heure, tous les territoires, toute la France. Ne pas oublier les territoires ultramarins. Et je dois aussi pouvoir intervenir pour tous les enfants français qui vivent à l'étranger. Mais la Convention internationale des droits de l'enfant, elle implique une solidarité entre les défenseurs des enfants du monde. Et pour ça, je fais partie de deux réseaux. Les défenseurs des enfants du Conseil de l'Europe, donc géographique, hein, les 45 pays qui sont membres du Conseil de l'Europe. Donc avec mes collègues, ça veut dire que je rencontre régulièrement mon collègue défenseur des enfants de l'Espagne, de Belgique, d'Italie. Et il y a un autre réseau, je fais partie, et j'ai eu le plaisir d'être élu président du Comité des droits de l'enfant des pays de la francophonie. Donc je suis en relation permanente avec mes collègues de la francophonie, donc notamment le Maroc par exemple, mais aussi le Québec, sur trois continents, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, donc l'Amérique du Nord, le Canada.
Avez-vous aidé à construire des foyers d'accueil ou des écoles?
Alors, ma mission, moi, en tant que défenseur des enfants, elle n'est pas de créer des écoles, de créer des foyers de protection. Par contre, elle est là pour dire il n'est pas normal, par exemple en ce moment, il y a trop d'enfants en danger qui ont des mesures de protection mais qui ne sont pas mis en œuvre parce qu'il n'y a pas de place dans des foyers ou des familles d'accueil. Donc nous, on recommande et on dit à l'État, c'est une obligation légale de protéger les enfants. Donc forcément, l'État et les départements doivent, à partir de là, créer des places, créer les conditions pour protéger. Ils n'ont pas le choix, c'est la loi. La protection de l'enfant, c'est une mission obligatoire.
Travaillez-vous tout seul ou avec d'autres personnes?
Je travaille avec la Défenseur des droits, je travaille avec les 600 délégués du Défenseur des droits partout en France, et il y en a 4 à Grenoble et 9 en Isère, et 600 sur l'ensemble du territoire national. Bien entendu, personne ne travaille seul, et heureusement, enfin, on travaille en équipe, on est des coéquipiers. Il y a 19 millions d'enfants en France, ça veut dire 19 millions de personnes de moins de 18 ans. Il y a 12 millions d'élèves. Forcément, heureusement, on est nombreux et donc j'ai des équipes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'à Paris, il y a un pôle droit de l'enfant qui est dirigé par une juge des enfants qui a des anciens avocats, des juristes qui sont spécialisés dans la protection de l'enfance, dans le handicap, dans l'éducation, dans la santé, etc., etc.
Parce que donc, avec nous, avec Clison, on a fait donc suivi une formation. Au début, on était monté à Paris, justement dans les locaux de M. Delmar. Et du coup, on était dans les locaux, oui, du...
Ouais.
enfin, pôle de l'enfance.
Ça, c'est important parce qu'il y a une centaine chaque année de jeunes ambassadeurs des droits. Alors, les jeunes ambassadeurs des droits, vous en avez deux exemplaires aujourd'hui avec nous, sont des jeunes, souvent des jeunes étudiants, en général de 17 à 23, 24, 25 ans, qui décident de faire une interruption, une pause dans leurs études, par exemple dans leur parcours, et qui vont venir se former aux défenseurs des droits sur les droits des enfants et la lutte contre les discriminations. Et on va les former, et après, ils vont repartir dans leur département, dans leur ville, et ils vont sensibiliser. Et chaque année, on sensibilise environ 50 à 55 000 enfants dans les écoles primaires, au collège, mais aussi dans des établissements sociaux, des établissements qui accueillent des enfants en situation de handicap. On va aussi pour des enfants qui se sentent les plus éloignés de leurs droits, c'est-à-dire dans les lieux d'incarcération, dans les prisons où il y a des mineurs.
C'est-à-dire c'est vous le chef ?
Alors, la chef, c'est la défenseur des droits, et moi, je suis son adjoint, défenseur des enfants.
Intervenez-vous dans des hôpitaux pour voir des enfants malades ?
Oui, alors je suis très très proche notamment des services de pédiatrie où je m'intéresse beaucoup à la question des enfants et de la santé des enfants. Par exemple, cette année je vous parlais du rapport qu'on a remis au ministre, au président de la République, aux députés. C'est un rapport qui s'intitule « Le droit des enfants à un environnement sain ». Ça veut dire les conséquences du réchauffement climatique, les conséquences de la perte de la biodiversité, les conséquences des événements météorologiques extrêmes, les ouragans, les tempêtes, les inondations. Et donc on s'aperçoit par exemple là aujourd'hui qu'il faut que la société prenne mieux en compte la vulnérabilité des très jeunes enfants par rapport aux pesticides, par rapport aux aérosols, aux perturbateurs endocriniens, enfin tous les produits qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça, c'est par exemple un exemple. Mais aussi, je m'intéresse aux enfants qui sont en danger, qui sont maltraités, dans un accès à la santé afin d'être guéris et protégés.
Où vont les enfants qui ne respectent pas les droits des autres ?
Ah, alors ça, c'est une vraie question. Parce que quand j'attire l'attention de certaines personnes, on me dit « oui, mais il n'y a pas que les droits, il y a aussi les devoirs ». Je rappelle que d'abord, la France est un pays, ce qu'on appelle un état de droit. Alors c'est un peu compliqué, mais ça ne veut pas dire que ce serait un état où vous et moi, on serait des consommateurs de droits en ayant oublié nos devoirs. Non, ça veut dire que l'état s'engage à respecter et à faire respecter et à lui-même les lois qu'il a votées. Ça veut dire que concrètement, si chacun respecte les droits, eh bien il a respecté les devoirs. Et moi je dis toujours que les adultes ont le devoir de respecter les droits de l'enfant.
Parlez-vous et travaillez-vous avec le président de la République ?
Non, je ne travaille pas avec le président de la République parce que le défenseur des droits est une autorité totalement indépendante. Elle a de compte à rendre à personne sur les travaux qu'elle mène. On a la possibilité de dire tout ce qui ne va pas en termes de droits dans notre pays.
Avez-vous inventé certains droits pour les enfants ?
C'est une très bonne remarque. On participe beaucoup avec la défenseur des droits. Je vais souvent à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour faire des avancées en proposant des évolutions du droit. Alors des fois, c'est très explicite. Par exemple, dans la loi de 2022 sur qu'on appelait la loi Adrien Taquet sur la protection des enfants, on a fait des recommandations. Certaines ont été prises en compte, pas d'autres. On aurait voulu que ça, encore une fois, que certaines soient plus prises en compte. Et puis, on a participé de manière indirecte auprès de la Société française de pédiatrie pour que dans le carnet de santé des enfants soit inscrit la loi de 2019 qui dit « L'éducation s'exerce sans violence auprès des enfants ». À partir de janvier, dans tous les carnets de santé des enfants, ce sera écrit « L'éducation des enfants s'exerce sans violence physique et psychologique, sans humiliation ». On a fait beaucoup avancer les choses sur l'évolution des lois, même s'il y a encore des grandes difficultés d'accès, dans le handicap, dans la scolarisation des enfants, dans la défense des enfants en danger, etc.
Participez-vous aux enquêtes policières concernant les mineurs ?
Ça, c'est une très 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 bonne question. On ne participe pas aux enquêtes, mais le défenseur des droits est l'autorité administrative indépendante qui veille au respect des règles éthiques et déontologiques, c'est-à-dire la manière dont la police, la gendarmerie, la police de la SNCF, la police des douanes, l'administration pénitentiaire, les sociétés privées de sécurité exercent leur métier dans le respect des règles. Donc ça veut dire que la défenseur des droits peut très bien recevoir des policiers pour une enquête concernant la manière dont la gestion de l'ordre public est mise en œuvre. Par contre, tu poses une question de juriste spécialiste, et c'est très bien, c'est qu'il y a l'indépendance de la justice. La justice est totalement indépendante, donc la justice mène et demande à l'autorité de police de mener des enquêtes, par exemple, quand les enfants ont été victimes et sont entendus. Par contre, nous, on va faire des recommandations au ministère de la Justice ou au ministère de l'Intérieur pour mieux écouter les enfants, pour que les policiers soient mieux formés, et c'est de plus en plus le cas, pour écouter un enfant. Ça va pas de soi d'accueillir un enfant dans un commissariat, dans une gendarmerie. Il faut être formé, il faut le faire dans des conditions respectueuses, à l'abri de tout ce qui peut se passer dans un commissariat, parce que ça va parfois c'est tendu comme ambiance. Donc c'est vraiment important. Donc on va faire des recommandations comme ça.
Pouvez-vous nous raconter une histoire ou une anecdote qui vous a marqué concernant les enfants et l'égalité ?
Oui, je me souviens d'une histoire où une jeune fille de 14 ans, ses parents sont séparés. Elle vit avec sa mère la semaine et elle va chez son père le week-end.
C'est comme avec moi.
Comme moi, pareil.
Il y a plein d'enfants, comme il y a plein d'enfants qui vivent, leurs parents sont séparés et pour lesquels ça se passe bien. Mais là, dans cette histoire-là, sa mère vit avec un nouvel homme et quand elle est rentrée le week-end chez son père, elle a dit que ce monsieur la frappait. Et donc, elle a peur. Cet enfant va être entendu par la police. Et elle arrive au commissariat et je ne sais pas pourquoi, elle était toute seule au commissariat. Elle n'était pas accompagnée. Et donc, elle explique qu'en fait, elle s'est retrouvée dans la salle d'attente du commissariat et dans la salle d'attente du commissariat, eh bien, c'est pas toujours la place d'un enfant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent et qui sont en colère ou malheureux parce qu'on leur a volé leur portable, parce qu'on leur a volé ceci ou cela, et qui crient, etc. Et elle avait que 14 ans, donc elle était un peu apeurée. Et à un moment donné, il y a un policier qui vient la chercher pour l'emmener à la brigade des mineurs. Donc la brigade des mineurs, c'est les policiers formés pour écouter les enfants. Et elle décrit un policier qui était très très impressionnant et elle était vraiment impressionnée. Et donc, lorsqu'elle arrive auprès de la brigade des mineurs, on lui pose des questions et en fait, elle était tellement apeurée de ce qu'elle avait vécu qu'elle n'a pas répondu comme elle voulait répondre. Et donc nous, on a fait des recommandations à la police pour que maintenant les mineurs, quand ils arrivent au commissariat, soient directement auprès de la brigade des mineurs et qu'ils ne soient pas dans la salle d'attente, que jamais il y ait un enfant seul dans une salle d'attente. Et que même quand ils sont accompagnés avec leurs parents, quitte à ce qu'on vienne les chercher et qu'on les envoie directement chez les spécialistes de l'enfance.
Pour vous, qu'est-ce que l'égalité ?
Moi, en tant que défenseur des enfants, je me bats pour l'égalité de l'accès aux droits, pour que les enfants soient reconnus comme des sujets de droit. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de discrimination. Vous savez que la discrimination, c'est quand on traite des gens différemment dans l'accès aux droits. En France, les personnes les plus discriminées, c'est les personnes en situation de handicap et les discriminations aux origines, origine étrangère, le quartier d'où on vient. Ça, c'est illégal. Mais il y en a une autre discrimination qui est due à l'âge. C'est-à-dire qu'au fond, parce que vous êtes des enfants, parce que vous avez moins de 18 ans, on considère trop souvent que ce que vous dites, c'est pas important. Et moi, je dis non. À chaque fois qu'on écoute les enfants, on a des choses. Là, sur le rapport que je viens de faire sur la protection de la nature, ben, je peux vous assurer que les enfants, ils disent des choses extraordinaires sur la protection de la planète. Les enfants, ils ont une sensibilité sur le vivant et la protection de la planète. Ça, c'est important. Donc moi, je me bats. Pour moi, l'égalité, elle est la responsabilité des adultes. Déjà, pour qu'il n'y ait plus de violence des adultes contre les enfants, mais c'est de la responsabilité des adultes de faire en sorte qu'il n'y ait plus de violence entre les enfants aussi. Entre les garçons et les filles. Il faut arriver à faire en sorte d'éduquer nos enfants, pas dans des rapports de puissance où c'est plus fort qu'à raison.
En fait, pour moi, les enfants, ils ont aussi beaucoup d'imagination. Comme moi.
Alors ça, je voudrais réagir à ça. Je dis souvent que notre société, elle adore ses enfants. Mais si on pouvait avoir nos enfants sans leur enfance, qu'est-ce qu'on serait tranquille ? C'est-à-dire qu'on voudrait que les enfants soient tout de suite responsables. On voudrait qu'ils fassent plein d'activités. Et quand je dis ça à des députés ou des sénateurs, je dis, quand vous regardez des enfants jouer, c'est votre propre enfance que vous voyez. C'est-à-dire l'insouciance. L'insouciance, c'est le droit à l'ennui, le droit de ne rien faire, parce que c'est comme ça qu'on a de l'imagination. Vous vous souvenez de ce scientifique, la pomme qui tombe de...
Newton.
Newton, merci. Donc la pomme de Newton, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, Newton, il est couché sous un arbre comme ça, et c'est quand la pomme tombe de l'arbre qu'il va réfléchir à la gravitation, la gravité. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que les moments où les autres qui nous regarderaient diraient « Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait rien, il s'ennuie. » Eh bien, c'est des moments où notre cerveau remet tout en ordre, et c'est des moments où on se laisse porter par la nature et où là, on développe de l'imagination. Tous les adultes qui vont bien ont été des enfants qui ont développé leur imaginaire. Ça, c'est formidable. Et c'est pour ça qu'il faut protéger l'enfance. Moi, quand j'étais petit à l'école, souvent, mes parents ils recevaient un mot sur le bulletin et toujours tête en l'air. Rêveur. Bah ouais. Tu vois. C'est formidable d'être rêveur. Je crois que les enfants qu'on maltraite, c'est aussi ceux à qui on n'a jamais donné cette capacité de développer leur imaginaire.
En parlant d'imagination, des fois, quand je suis en classe, bah, je regarde la fenêtre et je me dis qu'est-ce que j'irai bien dehors.
Alors, tu sais, il y a plein de personnalités connues, des écrivains, des dessinateurs, des artistes et plein d'autres qui ont été comme ça des rêveurs. Et c'est vrai, on supporte de moins en moins les pauses, l'imaginaire, etc. On est dans une société où tout est urgent. On reçoit 100 mails par jour, on est dans l'obligation de réagir. Non, Et c'est pour ça que vous avez un rôle important et que nous, on a un rôle important aussi, c'est vous permettre le droit à la déconnexion. Demain, avec l'intelligence artificielle, on va savoir simplement, parce que quand vous allez grandir, votre portable sera toujours avec vous, on va savoir tout ce que vous aurez fait. Donc à un moment donné, pour que vous soyez responsable et heureux, il faut qu'on vous éduque et qu'on vous donne les moyens de dire « Moi, je mets mon téléphone sur avion, je l'éteins parce que je veux un moment de liberté. Je veux aller me promener, je veux regarder par la fenêtre, comme tu disais, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'imaginaire. »
Voulez-vous toujours travailler avec les enfants quand vous ne serez plus défenseur ?
Oui, il y a plein d'autres métiers dans l'enfance qui m'intéressent. Là, je suis intéressé aussi par la défense des enfants qu'on appelle délinquants, qui sont en conflit avec la loi. Ça m'intéresse aussi d'aller voir les enjeux qu'il y a autour de ça et la responsabilité à la fois des enfants, mais la responsabilité de la société dans ce qui se passe. Donc ça, c'est des domaines qui m'intéressent, peut-être que je ferai après.
Avez-vous déjà vu un enfant abandonné sans lui porter secours ?
Non, mais par contre, j'ai été directeur dans un établissement de protection de l'enfance et dans l'établissement dans lequel je travaille, il y avait ce qu'on appelle une pouponnière, c'est-à-dire qu'il y avait des bébés qui étaient accueillis, qui étaient placés là parce qu'ils étaient en danger. J'ai vu des bébés maltraités, des bébés qu'il fallait protéger. Et là, c'est vraiment l'honneur d'un pays que de protéger ses enfants et dès tout petit, enfin, dès leur naissance, jusqu'à 18 ans, c'est ça la loi.
Dès leur naissance jusqu'à la mort
ou... Ah non, alors parce que les enfants, ça s'arrête à 18 ans. Après, ils deviennent adultes et c'est plus moi.
Normalement, ils sont pré-adultes.
Oui, tu as tout à fait raison. De 0 à 18 ans, on est un bébé, on est un enfant, on est un pré-ado, on est un adolescent. Et en plus, il y a des enfants, on a le droit d'être différents. Il y a des enfants qui sont différents à 13 ans, à 14 ans, à 17 ans. Plus ils grandissent, plus ils ont des responsabilités. Mais encore faut-il qu'on les ait bien protégés, bien éduqués. C'est le rôle fondamental d'un pays, c'est d'éduquer ses enfants. Je dis toujours que la société irait mieux si on s'était mieux occupé de certains adultes quand ils avaient été enfants. C'est vraiment un enjeu de société de dire, c'est pas parce que les enfants font 50 cm ou 50 kg de moins que les adultes qu'on doit employer la force pour se faire obéir. C'est un enjeu de civilisation et de démocratie d'éduquer les enfants à la non-violence. Ça ne veut pas dire ne pas faire autorité, ça ne veut pas dire ne pas faire sécurité, mais ne pas être violent. Ça me paraît fondamental. Donc c'est pour ça que je voulais me battre en fait. Tout à l'heure vous m'avez posé la question de est-ce que vous travaillez seul ou en équipe ? Moi je crois beaucoup à l'équipe et à la force. Et parfois, j'observe par exemple, que c'est dommage mais que c'est comme ça. Par exemple, si l'un d'entre vous se fait malmener à l'école, n'est pas respecté par un autre enfant mais aussi par un adulte, eh ben souvent, j'observe que quand l'enfant il va tout seul, il ne va pas forcément se faire entendre. Mais si vous allez à 2, 3, à 4, si vous montrez une force, une solidarité entre vous, vous serez beaucoup plus fort. Et moi, je crois à ça. Vous êtes capable de dire des choses de manière intelligente, de porter des points de vue. Donc soyez vraiment solidaires entre vous et soyez attentifs au harcèlement scolaire, soyez attentifs aux réseaux sociaux, à tout ça qui vont faire du mal à quelqu'un d'autre. Si vous êtes solidaires les uns et les autres seront solidaires avec vous.
Quel est votre métier de rêve
avant de devenir défenseur des enfants ?
Alors, c'est difficile à répondre à cette question parce que j'ai toujours aimé ce que je faisais. Quand j'étais éducateur, j'ai adoré et on m'a proposé d'être chef de service. Quand j'étais chef de service, j'ai adoré mon métier, on m'a proposé d'être directeur. Quand j'étais directeur, on m'a proposé d'être défenseur. Donc là, je pense que j'arrive à mon plafond de verre, comme on dit. J'ai toujours aimé ce que je faisais. C'est une chance. Je me considère comme assez chanceux, en fait.
En avez-vous marre de votre métier ?
Bah, tu vois, je viens de répondre. Non. C'est incroyable de travailler avec des enfants et de faire ce que je fais après. Parce que vous parlez de tout, vous parlez de la vie, vous parlez de l'avenir, vous parlez de choses fondamentales. Parce que vous êtes modeste, vous, parce que vous avez des questions sur l'avenir. Dans les auditions que j'ai menées, là, les consultations pour faire le rapport, il y a un enfant qui m'a dit « Ouais, mais nous, on n'est pas comme les adultes parce que nous, on se bat pour l'avenir, pour notre avenir, mais les adultes, ils se battent pour garder ce qu'ils ont, leurs avantages, leur voiture, leur maison.
Et aussi leur argent.
Et potentiellement leur argent. Nous, on se bat pour un idéal. Et ça, c'est comme tu disais, le droit à rêver, ça. Et ça, je crois qu'il ne faut jamais abandonner, même si on est dans une société difficile. Le principe de l'éducation, c'est de la perspective, c'est de l'espoir, et c'est doter les enfants de moyens, d'avoir les moyens de naviguer dans la société et d'être heureux. Et je trouve que quand on travaille avec des enfants, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours un espoir incroyable. C'est la vie, en fait. C'est la vie, quoi. Et donc, ça, j'adore ça.
Est-ce que vous pouvez aller en prison ?
Alors ça, c'est une question fondamentale. Qu'on soit défenseur des droits, qu'on soit député, ministre, président, on est responsable. Moi, je suis responsable. Je dois, comme toi, pas brûler un feu rouge, respecter le code de la route, respecter les gens, avoir une mission importante, c'est pas avoir plus de droits que les autres. Je dois respecter, comme toi, toutes les lois. personne, quelle que soit la place qu'il occupe, aurait une autorisation de ne pas respecter le droit. Vous savez à partir de quel âge on est responsable en France, pénalement ?
18 ans.
Non. À partir de quand on peut rendre des comptes à la justice ?
30 000 ans.
13 ans. Bravo. De 13 à 18 ans, tu es protégé et tu ne peux pas être condamné comme les adultes. Mais une fois que tu as 18 ans, quelle que soit la place que tu occupes dans la société, tu as les mêmes obligations. C'est ça l'état de droit.
Si par exemple, même vous pouvez rentrer chez les gens comme ça.
Alors, c'est une très très bonne question. Je ne suis pas un service social, je n'interviens pas dans les familles. J'interviens quand les institutions ou des associations ont été mises en cause dans l'accès aux droits. Je ne suis pas les services sociaux, je ne suis pas la justice, je ne suis pas la police, et je ne peux pas rentrer, je respecte les libertés individuelles et le droit.
Pourquoi avez-vous choisi ce centre de loisirs ?
Alors ce centre de loisirs, c'est grâce au Franca et grâce à Gérard. Je suis arrivé défenseur des enfants il y a 4 ans, et il me dit « faut venir, faut venir ». Sauf que Gérard, il me dit « faut que tu viennes le 20 novembre ». Sauf que le 20 novembre, je reçois des centaines d'invitations, et déjà j'organise une grande manifestation avec la Défenseure à Paris, puisque c'est l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, donc tous les mois de novembre, c'est une activité incroyable. Mais l'année dernière, avec Gérard, on s'est dit « tu bloques fin novembre 2024 ». Pour venir. Et comme je travaille beaucoup aussi avec les Francas, j'étais d'ailleurs à leur assemblée, enfin à leur grande
Festival international
à Paris. Donc j'étais au FIDEC il y a quelques semaines. Et d'ailleurs tout le monde là-bas savait que je venais à Grenoble. Donc, mais je fais ça régulièrement. Tous les mois, je vais voir 2, 3, 4 manifestations comme celle-ci.
Merci.